Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 596. Figurez-vous, parce que la Team Draft a pris possession du flux et le compteur, il a tourné, mais un truc de dingue. En préparant l'émission, je n'en revenais pas, on est quasiment déjà à 600. Donc on aura fait plus de 100 émissions en fait sur la saison, si on compte la saison, l'année scolaire française, on va dire. On sait qu'officiellement la saison NFL va débuter le 13 mars hein, pour la Ligue. Raphaël, comment ça va ?
Salut à tous, et bah écoute, ça va, ça va.
Bon, bien reposé après le Super Bowl, on a récupéré tranquille.
Oui, largement là, largement.
Bon, bah ouais, non mais t'as vu, c'est ce qu'on disait, la Team Draft fait tourner le compteur sans nous, donc on se sent un peu, on débarque, ça ne s'est pas arrêté. Lucas, est-ce que t'as eu le temps de te reposer toi ?
Oui, un petit peu, mais j'ai l'impression que vous êtes comme mon Game Pass, messieurs, hein. Pendant la saison, je vous vois quasiment tous les jours, et puis après quand la saison s'arrête, je vous vois une fois par mois, j'espère que vous allez tous bien, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu.
C'est vrai que encore une fois, pour vous sur le flux qui écoutez le podcast, il se passe beaucoup de choses avec la Team Draft et tout, mais et encore, hein, Raphaël, on est des vieux de la vieille. Si tu te rappelles 2012, 2013, quand on se voyait trois fois sur toute l'intersaison.
C'est vrai.
Moi, c'était quand on se retrouvait en fin août, tu vois, j'avais vraiment l'impression qu'on s'était pas vu depuis 6 mois. Quoi. C'était toujours un truc assez incroyable. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver, évidemment, parce que oui, l'intersaison commence à rentrer dans une phase critique. La Free Agency approche. Ça commencera le lundi 13 mars avec officiellement l'ouverture de la phase officieuse de négociation. Je ne sais plus comment on dit. En tout cas, du 13 au 15 mars, on négocie entre les joueurs et les équipes. Et à partir du 15, on signe les contrats. Mais vous vous en doutez bien maintenant, et vous l'avez compris ces dernières années, les accords sont annoncés dès le lundi, dès le 13 mars, dès l'ouverture de la phase de négociation. Ça va aller très vite, il y aura beaucoup d'actu sur le site. De l'actu, il y en a quand même déjà, avec des signatures de quarterback, avec des rumeurs, avec des franchise tags. Et puis, on vous donnera aussi un petit aperçu de la Free Agency, c'est juste après un premier jingle.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence évidemment avec la plus grosse actualité quarterback du moment, en attendant éventuellement un Aaron Rodgers. Je fais l'annonce dès le début. Pour l'instant, nous n'avons pas d'Aaron Rodgers dans cette émission. Peut-être dans une prochaine, on ne sait pas s'il va aller aux Jets. Peut-être pendant que nous enregistrons, c'est le suspense. Derek Carr est le nouveau quarterback des Saints, messieurs, et c'est déjà une très grosse actu. 4 ans, 150 millions de dollars, 60 millions à la signature. Après Jameis Winston, Andy Dalton, Taysom Hill, ils ont essayé beaucoup de choses, beaucoup de styles aussi, hein, différents quand on donne les trois noms. Est-ce qu'ils ont enfin trouvé le successeur de Drew Brees, Raphaël ?
Successeur de Drew Brees, je sais pas, c'est compliqué de succéder au légendaire Drew Brees. C'est pas en plus tout à fait les mêmes qualités, clairement. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont de plus solide depuis un moment. Et clairement, depuis Drew Brees, ça c'est une évidence. On est peut-être un peu moins fantasque qu'avec un Jameis Winston, mais bien plus rassurant à bien des égards. on l'a vu hein, quand même, en plus ces dernières années, ces deux dernières années notamment, je pense, Derek Carr avait quand même montré que c'était un vrai leader d'équipe. Chez les Raiders, il n'y a qu'à voir toute la gestion du poste Gruden, Henry Ruggs, tout ça, comment il s'était positionné vraiment en guide dans cette équipe qui ne lui a pas tellement rendu au passage, mais bon, c'est encore un autre débat. Donc oui, je ne sais pas s'il s'inscrira dans les pas de Drew Brees, mais en tout cas, il permet à mon sens aux Saints de, d'être peut-être les favoris de cette division l'an prochain, direct.
On va y venir ça. Oh, Lucas, il n'a pas l'air d'accord. Lucas, il n'a pas l'air d'accord.
Si, je suis d'accord, mais parce que c'est pas difficile.
Oui, par défaut.
Favori,
voilà. Oui, par défaut. Oui. On va y venir, mais on va commencer avec Derek Carr. Lucas, en 2022, c'est 24 touchdowns pour 14 interceptions. En carrière, c'est 217 touchdowns pour 99 interceptions. C'est ce que disait Raphaël, c'est un joueur solide, mais il aura quand même besoin de bons coéquipiers, d'un bon coaching. C'est aussi ça, hein, la différence avec Drew Brees, c'est qu'il n'y a pas Sean Payton, mine de rien. Mais c'est déjà le meilleur quarterback de la division, et c'est ce qu'il pouvait avoir de mieux, on est d'accord.
Ah, clairement, si on met de côté les éventuels trades de joueurs qui sont pas disponibles actuellement, on parlait de Rodgers, c'est sûr que c'est peut-être mieux en termes de qualité d'avoir Rodgers, mais pour le coup, Rodgers, on est pour l'instant sur des rumeurs, sur des discussions, on parle de free agent, d'agent libre, de joueurs disponibles, et Derek Carr, c'est le quarterback disponible qui était le meilleur pour les Saints. En effet, c'est un vrai upgrade par rapport à certains joueurs qu'ils avaient. Après, Derek Carr, c'est un bon quarterback. Est-ce que c'est un très bon quarterback? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est un quarterback élite? Je suis pas sûr non plus. Maintenant, c'est un bon quarterback et c'était difficile d'avoir mieux. C'est pour ça que je suis un peu mitigé sur cette signature parce que d'un côté, ça fait sens pour les Saints et pour Derek Carr. Et de l'autre, je me dis, on va où en fait pour les Saints notamment? Ils sont favoris de cette division, certes, on en parlera peut-être, tu l'as dit, mais bon, je trouve que le plafond, il n'est pas non plus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que quand on avait Andy Dalton, mais il est plus haut, ça c'est vrai, et donc, par définition, c'est une amélioration.
Mine de rien, ils ont une défense qui est top 10 de la Ligue depuis 3 ans,
ça va
à la fois sur les points et sur les yards, ça risque de changer avec la free agency, mais bon...
Non, ça, pardon, ça va lui changer, je parle de
Derek
Carr,
ça va lui changer
d'habitude.
Non mais voilà, alors c'était là aussi où je voulais en venir, et c'est pour ça que je parlais aussi des coéquipiers, du coaching. C'est un joueur qui a été correct, mine de rien, malgré une franchise qui est autour de lui, je ne vais pas dire être catastrophique, mais il a été drafté en 2014, il a eu 5 coachs différents, il a eu 4 coordinateurs différents, il a eu des défenses absolument catastrophiques, qui étaient pour le coup, elles, plutôt dans le top 10 en partant du bas, très régulièrement. Est-ce qu'il a 31 ans, je le rappelle, ce qui est plus si vieux que ça pour un quarterback, ce qui est plutôt la maturité, on va dire. Est-ce que dans un environnement plus sain, il peut faire mieux, Raphaël, ou est-ce qu'on a vu déjà le meilleur de lui et c'est ce qu'ils auront?
Non, je pense qu'il peut faire mieux. Lui, à titre individuel, peut faire mieux en étant, on l'espère pour lui, mieux coaché ou en tout cas avec plus de stabilité. Alors, malheureusement, le petit bémol que je mettrai tout de suite à ça, c'est que je ne sais pas si Denis Allen est le bon gars pour ça tout de suite. Mais c'est une équipe qui arrive notamment à drafter des bons skill players. Clairement, les Saints, enfin, on l'a vu avec Olave, il y a eu Kamara, ils sont capables d'avoir souvent des lignes offensives globalement correctes. Donc je pense qu'ils sont capables de lui mettre des bonnes armes entre les mains. Et comme en plus, de l'autre côté du terrain, c'est beaucoup plus solide que ce qu'il n'avait, si tu veux, il y a de la place, à mon sens, pour de la progression à la fois individuelle et collective. Après, c'est un peu ce que laissait sous-entendre Lucas, c'est à quel point cette marge de progression individuelle, notamment, est vraiment élevée pour Derek Carr. Bon, je suis pas sûr qu'on passe à un quarterback capable de lancer 45 touchdowns par saison, tu vois. Je crois pas que ce soit ça non plus la marge de progression pour lui. Mais en tout cas, individuellement, elle y est, cette marge de progression, je pense sincèrement.
Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un joueur solide, mais pas exceptionnel. Lucas, tu lui vois encore une marge de progression? Je te sens moins convaincu quand même.
Oui, je suis pas sûr, parce que tu l'as dit, exactement le nombre d'années qu'il est dans la Ligue, je m'en rappelle plus, mais ça fait quand même un
2014.
Petit moment. Certes, voilà, ça fait quasiment donc 9 saisons, il va entamer sa 10e. Du coup, certes, il y a eu pas mal de changements de coach, d'entraîneur, de coordinateur offensif, tu l'as dit. Mais en même temps, il n'est pas totalement innocent à ça aussi. Je pense qu'il était juste au-dessus de la ligne de flottaison pour pas qu'on estime que c'est de sa faute et que c'est la faute de l'entraîneur, parce qu'il y avait aussi le reste, il y avait aussi la défense, il y avait aussi tout ce qui se passe hors du terrain, notamment pour d'autres entraîneurs. Mais en même temps, il n'a pas forcément toujours élevé le niveau de son équipe comme peuvent le faire de très bons quarterbacks. C'est pour ça que je le considère pas comme un très bon quarterback. Donc maintenant, ça fait un moment, oui, il peut se révéler d'un coup, comme tu as dit, 31 ans désormais, notamment pour un quarterback, c'est vraiment pas vieux, plus vieux. Donc il peut se révéler, j'y crois pas trop. Mais bon, favori de division, potentiellement vainqueur de division, potentiellement play-off, c'est déjà mieux et c'est déjà peut-être un peu d'espoir.
C'est sûr que si on revient sur la division, moi ce qui m'inquiète, je rejoins un peu Raphaël, ce qui m'inquiète c'est en effet Dennis Allen. Je suis pas hyper convaincu de l'association là et donc je sais pas si ça met de la pression sur Dennis Allen par exemple, Raphaël. Est-ce que tu vois si ça marche pas au bout d'un an, on
oui,
dégage
je pense
Allen.
Que ça lui met de la pression en tout cas pour aller en play-off. C'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui en NFC Sud. Si jamais ça se confirme que les Falcons vont jouer avec Desmond Ridder parce qu'il ne bouge pas pour autre, que les Panthers partent peut-être avec un rookie. Bon, t'aurais dû et que le Tampa est dans l'après Brady, tu fais venir Derek Carr. Si tu ne vas pas en play-off, à mon sens pour Dennis Allen, c'est coupé et le GM des Saints voudra tout de suite trouver le coach qui va permettre de profiter des 2 ans de contrat restant de Derek Carr. Donc ouais, c'est grosse pression.
On a un petit peu évoqué la situation des quarterbacks en NFC Sud. Raphaël nous a envoyé un très beau graphique sur les quarterbacks NFC avant l'émission. Derek Carr donc pour les Saints et à l'heure actuelle, alors évidemment on est pré-free agency, pré-draft, donc c'est évidemment ce que à prendre avec des pincettes, mais PJ Walker pour les Panthers, Kyle Trask pour les Buccaneers et Desmond Ridder pour les Falcons. Donc oui, en effet, un peu par défaut, comme le disait Lucas, il est évidemment le meilleur quarterback de la division NFC Sud. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. En tout cas, c'est un beau coup. C'est une équipe qui a joué, qui joue pas la reconstruction, clairement, malgré un salary cap qu'il va falloir encore gérer. Hein, parce que la signature de Carr, quand on regarde le salary cap des Saints, à chaque fois, on se dit, évidemment qu'ils ne sont pas dans la course. Il y a une limite salariale qu'ils dépassent allègrement. Et puis finalement, non. Lucas.
Après, il y a une vraie question aussi de ce choix-là des Saints pour Derek Carr, parce que il y avait les Jets qui étaient potentiellement dans la course aussi. On n'a pas parlé de tout ça parce que c'est vrai qu'on se dit que pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer avec Rodgers, mais il y avait cette éventualité que les Jets préféraient Rodgers ou attendaient Rodgers, mais il y avait aussi Carr dans la tête. Attention, si les Jets ne tombent pas sur Rodgers, ça va être compliqué derrière parce que après, il faudra trouver ce qui reste. Et c'est vrai que Derek Carr, lui, était le meilleur quarterback disponible.
Ah bah je pense que Carr il a pas été fou, il s'est dit c'est Aaron Rodgers donc ça peut prendre 1000 ans comme ça peut prendre 2 heures. Donc il s'est dit moi je vais pas attendre qu'une équipe, parce que si lui il attendait avec les Saints il trouvait, c'était Carr qui était coincé.
Ah oui exactement, et puis autant aller dans une franchise qui manifestement le voulait beaucoup vu l'argent qu'ils mettent aussi, à une franchise à qui on a dit je te veux mais j'attends peut-être mieux.
Ouais, et puis on rappelle, tu le dis bien, autant les Jets étaient intéressés, autant les Saints avaient été les premiers à le rencontrer avant même qu'il ne soit coupé par les Raiders. Ils avaient éventuellement discuté avec lui même d'un éventuel transfert. Bon, après une fois que c'était évident qu'il allait être coupé, hein, ils n'allaient pas non plus se faire avoir. Donc pour Derek Carr, du côté des Saints, c'était le premier gros mouvement. Le second, il est arrivé mardi soir, juste avant la deadline du franchise tag. C'était Daniel Jones qui reste à New York, 160 millions de dollars sur 4 ans, 82 millions garantis. Daniel Jones qui continue donc avec les Giants. Forcément, c'est cher, mais les prix augmentent tous les ans. J'ai l'impression qu'on répète la même chose. Juste pour vous rappeler quand même, le plafond salarial cette année, c'est 224,8 millions de dollars. L'an dernier, c'était 208. Est-ce que vous vous rappelez à combien était le plafond, la limite, en 2013, il y a 10 ans?
Non, franchement.
Il était à 123. Ça veut dire qu'on a pris 100 millions en 10 ans. C'est un délire.
Il a quasiment
doublé, pas doublé, mais quasiment. Quoi. On est passé de 123 à 224 en 10 ans. Donc forcément, les contrats deviennent gigantesques. On rappelle que ça met Daniel Jones en 7e position, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus la stat notée devant les yeux, mais ça ne met pas dans le top 5 des quarterbacks les mieux payés. Donc est-ce que finalement, les Giants ont juste fait ce qu'ils avaient à faire, Lucas?
Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire compte tenu de ce qu'ils avaient déjà fait. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est sûr que quand on sait qu'ils n'ont pas choisi d'activer l'option sur la dernière année de contrat, ça devenait compliqué pour eux. Et en même temps, quand ils ne l'ont pas fait, personne ne se disait « c'est scandaleux, pourquoi ils ne le font pas ?» C'est vrai que c'est cette dernière année-là qui a obligé peut-être les Giants à re-réfléchir. Après, la structure du contrat, elle est toujours un peu particulière, mais et les chiffres ils sont c'est une chose, et puis après il y a ce qui est garanti, sur quelle distance, en tout cas sur quelle année ils peuvent s'en sortir entre guillemets, parce que forcément on pense toujours un peu à ça, même si on imagine et on espère que le quarterback va rester très bon chaque année. Donc oui, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en se disant ben on y croit, on croit à ce quarterback là, parce qu'on peut pas non plus avoir beaucoup mieux. Les chiffres, après, ils sont ce qu'ils sont. Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'augmentations. Et il n'est pas dans le top 5, ce qui aurait été presque... Alors, pas scandaleux, mais qui aurait été très étonnant.
Oui, ça aurait été... J'ai bien aimé le « ils ont fait ce qu'ils avaient à faire compte tenu de ce qu'ils avaient déjà fait ». T'étais à deux doigts du « on peut tromper mille fois une personne ».
Mais pas... Oui, exactement. Je n'ai pas répété, mais je l'ai fait du premier coup.
Raphaël, est-ce que c'était le scénario logique de prolonger Daniel Jones? Lucas l'a bien rappelé, un joueur qu'au final... Il y a un an, quand il décline la cinquième année, on se dit, bon, bah, ça sent la fin quand même. Hein.
Objectivement, alors, moi, je reste un peu dubitatif sur le talent du joueur, sur tout ça. Voilà, c'est pas tellement ça qui changera. Mais je rejoins Lucas, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas tellement d'autres options en fait, après la saison que Jones a fait, en fait. Tu peux pas t'en séparer cette année, compte tenu de ce qu'il a fait l'an dernier et compte tenu du fait que t'avais de toute manière pas l'air d'être en course pour aller chercher quelqu'un d'autre. Donc à partir de là, le laisser partir sans être sûr d'avoir quelqu'un d'autre à la place, c'était tirer une balle dans le pied à la place du GM et de Daboll. Donc en fait, presque pour eux, c'était une évidence. Ça aurait été plus simple si à la limite il avait été encore nul l'an dernier, tu vois, au moins il était nul, il confirmait il était nul et tu passes à autre chose et merci, au revoir. Là en fait ils se sont mis en danger, mais ils n'ont pas le choix de se mettre en danger avec lui. Ils pouvaient pas faire autrement après la saison qu'il a fait, en fait c'était compliqué.
Pour moi ils sont dans la pire situation, enfin ils sont dans la pire situation non, parce qu'au moins le mec a été bon, donc ça aurait pu être pire. Ils sont allés en playoff, c'est très bien, etc. Mais ils sont quand même dans la situation du quarterback moyen, et qui en vrai il y a aucune garantie, parce qu'il a fait une bonne saison. Il y a un an, ils étaient prêts à le jeter. Et il fait une bonne saison parce qu'il est quand même bien protégé, bien mis dans les bonnes conditions.
À sa décharge, on peut quand même lui reconnaître qu'il n'a pas une escouade de receveurs de qualité. Franchement, on peut quand même lui reconnaître qu'il lance des balles à...
Et puis surtout, enfin... pas grand monde. Et puis surtout, il a progressé tout de même. Certes, l'environnement autour de lui était mieux, ce qui aide, mais je trouve qu'il a progressé. Je trouve que dans sa gestion du ballon notamment, on le sait, c'était un joueur qui perdait énormément de ballons, et c'était pas tout le temps du fait que l'environnement autour de lui était pas très bon. Qu'il avait moins de sécurité. Là, il l'a gardé un peu plus. Alors, c'est sûr que quand on est en confiance, c'est plus facile. Je trouve qu'il y a un peu de progression. Après, c'est vrai, je pense que pour les Giants, ils passeraient plus pour des imbéciles, pour pas dire un autre mot, s'il l'avait laissé partir et qu'il avait explosé autre part, parce qu'un contrat comme ça, il y a une autre franchise qui lui aurait donné quasiment de manière sûre, plutôt qu'il le signe à ce contrat-là et Daniel Jones redevient un joueur moyen comme il l'était, et c'est un mauvais choix. Je pense que quitte à se tromper, vaut mieux se tromper dans ce sens-là.
Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on dit il a fait une bonne saison, quand même, toute proportion gardée, au sens où je suis d'accord, hein, mais quand on se félicite que le mec perde plus de ballons pour lui donner 160 millions, déjà ça me paraît être une base un peu douteuse. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les squads de receveurs est quand même très très pauvre, mais c'est une saison à 3200 yards, 15 touchdowns pour 5 interceptions. Dans les standards de la NFL actuelle à la passe, pourquoi t'es mort de rire, Raphaël?
Non, mais parce que t'as raison.
C'est un joueur qui court beaucoup aussi.
Alors voilà, 700 yards et 7 touchdowns au sol. Moi je vais vous dire, peut-être que je suis excessif ou que je dis n'importe quoi, je vous laisse me dire. Pour moi, de toute façon, il y a deux scénarios, c'est soit Blake Bortles, soit Josh Allen. C'est-à-dire que Josh Allen, on avait aussi des doutes au début, c'était un quarterback un peu coureur, ou en tout cas un peu plus massif, mais en tout cas un peu dans le même jeu, et on disait, la passe c'est pas fou, mais il va progresser. Il a progressé plus vite quand même, Josh Allen. Mais pourquoi pas, il y a une confirmation derrière, etc. Ou alors c'est Blake Bortles, où les Jaguars étaient exactement dans la même situation, au sens, on est allé en playoff, il a été ménagé, mais il s'en est pas mal sorti, et si on continue, peut-être qu'il continuera à pas mal s'en sortir. Je rappelle que Bortles, il a une saison à 4400 yards et 35 touchdowns, quand même, à la passe, dans sa carrière. Donc, il partait de cette base-là en disant, peut-être que quand on gardera les bonnes conditions, il va continuer, et il s'était écroulé. J'aurais tendance à penser que Daniel Jones est plus proche de Blake Bortles que de Josh Allen, mais je lui souhaite le meilleur. Mais je trouve que les Giants n'ont pas eu de bol, entre guillemets, comme tu disais. Il aurait été très mauvais l'année dernière, ils auraient été fixés. Bon, là, ils ont 3 ans qui sont engagés, quoi.
C'est ça, ils n'avaient pas le choix, en fait. C'est surtout ça, parce que
ils ont pas le choix.
Tout ce que tu dis est plutôt vrai, mais Je pense que le constat pour eux était exactement le même, mais en même temps, quoi faire d'autre, c'était difficile.
Ah non, non, bien sûr. Mais c'est pour ça, hein, c'est vraiment du constat, je juge pas, ils avaient pas autre chose à faire. Par contre, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est lui donner des cibles.
Hein. Ça oui.
Il n'y a plus d'excuses.
Là, oui.
Là-dessus, on est d'accord. Geno Smith reste aussi dans son équipe, messieurs, 105 millions de dollars sur 3 ans, 52 millions garantis. Du coup, c'est cadeau par rapport à Daniel Jones, hein, Geno Smith. Là aussi, Seattle a fait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'on est, on est tous d'accord là-dessus. Et quitte à prendre un mec qui sort d'une seule bonne saison, 4282 yards, quasiment 70% de passes complétées, 30 touchdowns, 11 interceptions. C'est un bien meilleur passeur que Daniel Jones pour le coup, hein, sur la saison écoulée. Là, c'est une bonne affaire en fait. C'est une des très bonnes affaires de ce début de free agency, Lucas.
Oui, c'est une bonne affaire. Je sais pas quel aurait été son marché et je pense qu'on s'est même pas trop posé la question parce que rapidement on a su ou on a compris que les Seahawks allaient le garder parce qu'en effet il a été très bon l'année dernière. Daniel Jones a été correct et voire bon, mais il a souvent été porté par son équipe. Là c'est vrai que Geno Smith il a souvent porté son équipe quand même et c'est peut-être là la différence, c'est que le plafond, on en parlait tout à l'heure, est encore plus haut je pense parce que Geno Smith, même au moment où les Seahawks ont parfois été un peu moins bons et perdaient des matchs, ils ont très bien commencé, ils ont eu un peu un creux, c'est rarement lui qui a été on va dire l'élément qui faisait qu'il perdait. Alors il n'a pas toujours été parfait, mais il fait une très bonne saison, c'est vrai. Et en plus, le prix est beaucoup plus abordable, on va dire, pour un joueur qui est plus vieux, certes. Ça se tentait largement, ouais.
Raphaël, on est dans la logique.
Ouais, on est dans la logique par rapport à la saison qu'il a donnée, au positionnement des Seahawks pour, de toute manière, le remplacer sans forcément avoir des atouts pour pouvoir le remplacer dès cette année. Puis en fait, il reste jeune, hein, donc c'est aussi un pari potentiellement d'avenir parce que si jamais il confirme sa première bonne saison, tu mets la main sur un mec qui... Enfin, s'il ressort l'an prochain, la saison qu'il a fait cette année, c'est pas cher à 35 millions, en fait. C'est même une sacrée affaire, pour le coup, s'il confirme. Et je trouve que s'il confirme pas, bah voilà, t'auras tenté un mec sur une saison en lui donnant un peu plus de chance. Ça passe pas l'an prochain, t'es mieux placé à la draft et potentiellement, tu peux déjà aller chercher un remplaçant et préparer le terrain. Donc, pour moi, c'était vraiment un deal gagnant-gagnant. Ça a bien matché, ça allait à tout le monde et le contrat est bon pour tout le monde. Donc bonne affaire, assurément, bonne affaire. Ouais.
Tu disais qu'il est jeune, il a 32 ans, je rappelle.
Ouais, tu vois.
Geno Smith. Oh, c'est extrêmement jeune.
Bah, se dire qu'au final, si le mec performe et que tu peux le garder 3 ans, 3-4 ans, enfin, tu vois, ça t'amène à 36 ans. T'es pas non plus, enfin.
À 36 ans, t'es encore très très jeune. Moi, je dirais même qu'à 37 ans, t'es encore très jeune.
Eh ben voilà, 37.
Voilà, allez. Je pense. Mais c'est dans la tête, tout ça. Les joueurs tagués, messieurs, on va enchaîner là-dessus. Et évidemment, un très gros nom. On va commencer évidemment par le plus gros dossier. On aurait presque pu commencer l'émission là-dessus, hein, parce que c'est tout un débat. 6 joueurs ont été tagués, ce qui n'est pas énorme par rapport à d'autres années. Hein. Le premier, c'est évidemment Lamar Jackson. Avec une petite nuance, d'ailleurs qui est valable pour tous les joueurs cette année. Il n'y a eu aucun tag exclusif.
Ah ouais ?
Sur Lamar... Okay. Ouais, ils sont tous non exclusifs. Sur Lamar Jackson, c'est donc un tag non exclusif, ce qui veut dire, si vous ne le savez pas, que les autres équipes NFL peuvent négocier avec Lamar Jackson, elles peuvent lui faire même une offre, il peut signer l'offre. La différence, évidemment, c'est que les Ravens peuvent s'aligner sur toutes les offres. S'ils choisissent de s'aligner, ils peuvent s'aligner sur toutes les offres. S'ils ne s'alignent pas, l'équipe qui a fait signer l'offre à Lamar Jackson, mais doit donner 2 choix du premier tour de la draft aux Ravens. Donc évidemment, quand tu lui fais signer l'offre, c'est qu'a priori, tu es prêt à donner les deux choix du premier tour. Tu t'estonnes pas après quand on te les demande. La question, messieurs, déjà, c'est est-ce que vous pensez que les Ravens vont s'aligner sur absolument tout et qu'ils ont fait ça juste pour lui montrer que, bah, après tout, ils voulaient peut-être beaucoup et il n'y aura pas beaucoup d'offres?
Je pense pas, parce que sinon ils auraient signé exactement ce que voulait Lamar Jackson. Parce que si ils en sont là, c'est que les chiffres d'un côté et de l'autre sont pas égaux. Peut-être que Jackson veut plus que ce que les Ravens veulent donner. Donc s'ils s'alignent sur absolument, enfin je pense pas qu'ils s'aligneraient sur absolument tout, dans le sens où si Lamar Jackson arrive à trouver ce qu'il veut exactement autre part. Je suis pas sûr que les Ravens ou alors c'est vraiment pour montrer. C'est une bonne question. En tout cas, j'ai juste une question. C'est deux choix du premier tour pour n'importe quel poste ou simplement pour les quarterbacks?
pour n'importe quel poste.
N'importe quel poste, d'accord. Donc c'est vrai
que tu peux taguer un kicker en non exclusif s'il y a un mec assez malade pour le signer. Voilà.
Ouais, t'as deux choix. Vraiment juste pour les, c'est parce que tu disais tous les joueurs, mais personne ne mettra deux premiers tours pour autre chose qu'un quarterback et encore.
J'espère.
Mais c'est
et surtout pas pour les running backs, puisque c'est la majeure partie des tags.
Je pense que c'est la première fois qu'en effet la question se pose vraiment sur ces tags non exclusifs. Raphaël, soyons fous, je vais aller à l'exemple extrême. 5 ans, 230 millions de dollars, totalement garanti, c'est le contrat de Deshaun Watson, c'est le plus gros de la NFL. Il y a quelqu'un qui met ça sur Watson, sur Jackson, pardon, tu crois que les Ravens s'alignent pas?
Non, je crois qu'en fait c'est pas une question de montant mais de garantie. Je crois sincèrement que le truc est là. Je pense que Cleveland a complètement cassé la matrice en filant un contrat de 100% garanti à un quarterback qui en plus était empêtré dans un ensemble d'affaires, voilà. Mais je pense sincèrement que Baltimore n'est pas prêt à aller jusqu'à là. Et c'est pour ça qu'à mon sens, je pense sincèrement que c'est là-dessus qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre avec Lamar Jackson. Ouais. C'est sur le pourcentage de garantie. Et du coup, je ne vois pas Baltimore céder. Ou alors, s'ils cèdent, c'est qu'ils ont re-questionné un peu tout leur fonctionnement. Mais je serais étonné. Voilà, à titre personnel, là, tu prends l'exemple d'un contrat 100% garanti. Je pense que du coup, ils ne s'alignent pas. À mon avis, ils ont en tête un montant garanti sur lequel, jusqu'auquel ils vont, et derrière, où ils laissent passer, quoi.
Je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas, pour la franchise et même pour les joueurs, parce que ça permet de vraiment voir le marché, parce qu'on parle de prix de marché, souvent, en comparant des joueurs qui ont signé l'année d'avant, ou il y a deux saisons, dans des franchises différentes. Là, c'est vrai que pour lui, il va pouvoir vraiment voir ce que peuvent lui donner les autres franchises et peut-être se rendre compte que soit les Ravens finalement ne sont pas les plus offrants et ont tort parce qu'il a un marché beaucoup plus haut, soit aussi peut-être se dire, et notamment ça c'est plutôt du côté de Baltimore, se dire bah tu vois finalement ce qu'on te dit on n'est pas si loin de la vérité. Mais je trouve que c'est bien pour les deux, il y a ces deux choix du premier tour qui rajoutent quelque chose, mais c'est bien pour les deux parties de vraiment pouvoir sonder le marché.
Alors, tu le fais bien de le rappeler, ces deux choix du premier tour, ils rajoutent quelque chose au sens où, il faut le rappeler là aussi, ça n'est pas une négociation, c'est pas un transfert. C'est-à-dire que l'équipe qui va signer Jackson, ce sera deux choix du premier tour, pas plus, pas moins. Et tu parlais de comparer, mine de rien, l'an dernier, alors évidemment, ils ont tout cassé avec le contrat, mais ils ont aussi tout cassé avec la compensation, parce que les Browns, pour payer ce contrat à Watson, ils avaient en plus monté un échange où ils avaient donné trois premiers tours à Houston pour avoir Deshaun Watson, qui était, tu le disais Raphaël bien, accusé de 23 agressions sexuelles et qui avait passé un an sans jouer. Donc à partir de là, pourquoi il n'y aurait pas des équipes qui tenteraient le coup? Lamar Jackson, ancien MVP, contre deux choix du premier tour.
Moi je trouve que les grands gagnants, enfin les grands gagnants, l'avenir le dira toujours, mais c'est plutôt Baltimore qui est en position de force, parce que c'est plus facile. Disons que Lamar Jackson, s'il voit que le marché n'est pas là, lui il va perdre de l'argent et c'est tout ce qu'il va perdre. Baltimore, si le marché est là pour Jackson, bah au pire, on va dire, ils repartent au moins avec deux choix du premier tour, tu vois. Donc eux, la perte, elle est un peu compensée pour eux par rapport à, et en plus ils ont la possibilité de matcher l'offre. Donc bah, à mon sens, Baltimore est quand même un peu plus en position de force sur ce dossier. Mais ça, bon voilà, c'était juste pour compléter ça.
Tu veux dire que le franchise tag est un outil du patronat?
En tout cas, il y ressemble fortement, mais bon, ça. Un autre débat. Et après, pour revenir sur ton propos, si, moi je pense que des équipes vont... Alors là, bien sûr, on a eu la discussion en interne, on s'étonnait, certains, on était plusieurs à s'étonner que des équipes puissent déjà déclarer qu'elles n'étaient pas intéressées. Lucas et d'autres, je sais que Lucas était un peu dans l'autre camp en disant « Oui, mais attention, on est quand même, c'est du bluff, enfin voilà, peut-être qu'elles font juste que bluffer ». Et j'espère sincèrement que les équipes bluffent en disant qu'elles sont pas intéressées, parce que quand je vois certaines équipes qui ont dit qu'elles étaient pas intéressées, alors là moi je tombe des nues. Hein,
de mémoire, donc les pas intéressées, il y a les Panthers, il y a les Falcons. Il m'en manque deux là, j'avoue que tu me prends. Les Jets, je crois, étaient pas dans les intéressés, et je vais retrouver. L'info pendant qu'on en parle.
Si je peux donner mon avis, en effet, pour moi c'est du bluff, parce que déjà il faut se poser la question. Pourquoi ça sort si quelqu'un est vraiment pas intéressé? Tu n'es pas intéressé, tu le sors pas dans la presse, tu le fais pas. Ça a été tellement vite que pour moi ce sont des fuites organisées, et peut-être que je me leurre, mais pour moi ce sont des fuites organisées. Et à quel moment on dit je suis pas intéressé? À quel moment on fait sortir? À quel moment c'est une information de pas être intéressé sur quelqu'un. Je veux dire,
tout est une information, Lucas, maintenant.
Ouais, mais alors pourquoi
si t'es pro Football Talk, si ils font des articles tous les jours pour dire que Tom Brady ne revient pas aujourd'hui quasiment.
Alors non, mais je parle du point de vue des médias, c'est une information, mais du point de vue des franchises, à quel moment c'est une information de dire on n'est pas intéressé? Pourquoi ils le font pas sur tous les autres joueurs? Moi, je suis désolé, mais j'ai pas entendu beaucoup de d'équipes parler, dire qu'ils sont pas intéressés sur. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. Alors peut-être que c'est justement pour faire baisser le prix, peut-être que, peu importe, peut-être que c'est justement pour être en sous-marin, mais pour moi, c'est du bluff, parce que comme tu le dis, je pense pas qu'il y ait d'esprit sain en NFL qui pense que Lamar Jackson ne vaut pas le coup de au moins passer un coup de téléphone. Est-ce que ça te dirait de venir jouer avec nous?
Je fais un aparté, mais un ancien MVP de 26 ans, disponible contre deux choix de draft, mais avec l'histoire de faire une offre sur laquelle son équipe peut s'aligner, je pense qu'on l'a quand même rarement vu ces 10-12 dernières années du site, ça me dit rien du tout.
Je pense que tu peux même dire on l'a jamais vu. Enfin...
Voilà, ça crée quand même une situation assez inédite qui pourrait être assez folle, parce qu'imagine, il y a 2-3 équipes différentes qui font des offres, ils signent 2-3 offres différentes, Baltimore fait quoi, s'aligne sur l'une, passe sur l'autre, il y en a une qui est plus
chère. Il a le droit d'en signer 3.
Alors, je crois qu'il peut. Je me demande si c'est pas une à la fois.
Ah tu ouais, vois, il en signe une, Baltimore s'aligne, voilà. Elle est annulée. Il en signe une deuxième, Baltimore s'aligne. Ouais,
Je pense, messieurs, que on entend beaucoup d'équipes qui sont pas intéressées. Je pense, à mon avis, que alors lui, il a pas vraiment de représentant, il a pas de
il a pas d'agent,
mais il a des représentants, pardon. Mais je pense que ça doit s'activer en sous-main, parce qu'à mon avis, il y a plus d'équipes qui le sont beaucoup plus, qui sont intéressées, que d'équipes qui ont dit non, nous ça va. À mon avis, ça doit débattre, comme tu le dis, Alain.
La liste de celles dont on parlait qui officiellement ne sont pas intéressées, ou en tout cas qui font fuiter dans les médias, c'est les Falcons, c'est les Commanders, les Dolphins, les Panthers et les Raiders.
À quel moment les Commanders sont pas intéressés par un joueur comme ça? Non, mais je suis désolé, mais c'est on peut pas. Enfin, pour moi, c'est on parle d'une équipe qui a annoncé le quarterback. Je suis désolé, qui a été annoncé titulaire. On en a oublié son nom. Il a été annoncé titulaire il y a deux semaines. Je suis désolé, mais moi je crois rien du tout ce qui sort de cette franchise depuis des semaines. Enfin bon, bref, c'est...
Et PJ Walker pour les Panthers, non, tu trouves pas que c'est une meilleure option?
Alors j'aime bien PJ Walker, sachez-le, je le défends, j'aime bien, mais bon, il y a pas photo.
Après voilà, les Raiders, ils sont blindés, ils ont Jared Stidham, tu vois, tu peux pas attaquer ça non plus. Les Dolphins, bon bah malheureusement, tu vois, Tagovailoa, c'est plus une question de commotion. Après,
mais,
en vrai,
je te coupe, Alain, je suis désolé, mais c'est juste pour vraiment appuyer. Moi, vous le savez, je suis supporter des Patriots. On parle de Mac Jones, mais moi, je suis Bill Belichick, je passe un coup de fil.
Ah bah oui.
Je suis intéressé. Ouais. Je suis intéressé forcément. Et donc c'est pour ça que. Bon, je reviens encore une fois, mais les équipes qui disent qu'ils sont pas intéressés pour moi, je serais pas étonné qu'ils tombent dans ces quatre équipes-là.
Écoute, franchement, on était quelques-uns à avoir peut-être surréagi sur le truc et tout. Et j'espère vraiment, j'espère sincèrement que c'est juste des fuites organisées, tout ça, parce que je n'ose même pas imaginer que t'es GM d'Atlanta et tu puisses te dire oh, Desmond Ridder, c'est bon, pas la peine d'appeler Lamar juste pour savoir, tu vois.
Moi, je regardais la liste aussi de celles qui pourraient être intéressés mais qui officiellement n'ont pas fait fuiter qu'elles étaient pas intéressées ou quoi. Il y a les Buccaneers, mine de rien, qui ont perdu Tom Brady. Ils ont fait un gros coup avec Brady, pourquoi ils diraient pas bah derrière on fait un gros coup avec Jackson, hein.
Bien sûr.
Et puis lui, tu l'appelles, tu lui dis tu viens en Floride, il y a pas d'impôts locaux, machin. Non mais mine de rien, il y a des sportifs américains qui sont sensibles à ça.
Ah oui, complètement.
Il y a pas de state tax en Floride, si je dis pas de bêtises.
Je crois que c'est Jordan Poyer qui a lâché ça, ou récemment qui a dit j'aimerais bien aller dans un état où on me taxe pas. Donc
la moitié de mon salaire, exactement. Ouais.
Donc il y a du soleil, il y a pas d'impôts, voilà. C'est pas. Il y a aussi les Colts, mais là c'est autre chose. En tout cas pour moi. C'est surtout, en plus, si t'es une équipe de la NFC, et même vu le champ qu'il y a en NFC, parce que en AFC, il doit se coltiner les Mahomes, les Bureau, les Allen, etc. Je reprends ce que nous avons envoyé Raphaël. Je vous ai donné les quarterbacks de la NFC Sud. À l'ouest, Brock Purdy, Geno Smith, Matthew Stafford, Kyler Murray. Alors, avec le respect qu'on peut avoir pour Geno Smith, mais voilà. NFC Nord, si Aaron Rodgers part en AFC en plus aux Jets, tu te retrouves avec Justin Fields, Jordan Love, Kirk Cousins, Jared Goff. Et en NFC Est, Jalen Hurts, Dak Prescott, Daniel Jones, Sam Howell.
Est-ce que le sign and trade est toujours possible pour les Ravens? Est-ce qu'ils peuvent toujours le signer et le trader?
Je crois que oui.
Ça doit être possible, je
crois.
Suppose.
Ouais, je crois qu'effectivement, ça fait toujours partie des possibilités de le signer et ensuite de tenter de le rééchanger. Mais je vois, enfin, ce qui serait compliqué, c'est une équipe. Pourquoi une équipe le signerait alors qu'elle avait l'opportunité de le trader pour deux choix, tu vois. Enfin, ça serait
Simplement si Baltimore dit, de toute façon, quoi que vous faites, on va s'aligner juste pour le garder parce qu'on n'a pas d'option derrière. Alors que si on le signe et que vous nous envoyez votre quarterback, c'est tiré par les cheveux. Je suis d'accord avec
toi. Oui.
Envoyez-nous Jared Stidham.
Mais du coup, ça serait un peu salaud. Écoutez, ce qu'on va faire, on va le signer et on vous le donne à vous parce que vous nous envoyez plus que les deux premiers tours. Promis, vous l'aurez comme ça. C'est un peu.
C'est la NFL. Hein.
Mais apparemment, il y a pas mal de sous-règles à ce truc-là. Moi, j'ai vu passer un truc de l'association des joueurs qui expliquait que tu peux pas quand même faire ce que tu veux avec le franchise tag non exclusif. Enfin, c'est assez limité quand même. Hein,
on va clairement être dans l'inédit. On va clairement être dans l'inédit. Alors, ça peut aussi déboucher sur. On l'évoque parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est inédit. Jackson, c'est un ancien MVP et c'est une situation assez incroyable. On peut aussi avoir une situation où personne ne fait d'offre. Il joue sous le franchise tag ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il fait grève au début de la reprise, de la préparation, etc. Et il joue pendant une année, c'est 32 millions de dollars le franchise tag pour un quarterback. Il prend 32 millions garantis et rebelote l'année prochaine. Franchise tag, deuxième fois ou pas, etc. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant ce que vous disiez du point de vue des Ravens parce que. Mine de rien, juste pour résumer un petit peu aussi ce débat, ce qu'on a l'air de dire, c'est que c'est un ancien MVP, son équipe fait pas tout pour le garder, et de l'autre côté, on est quand même pas sûr qu'une équipe veuille lâcher deux choix du premier tour. Est-ce qu'il y a quand même pas une baisse de la cote de Lamar Jackson et de sa valeur et de ce qu'on attend de lui qui a été un peu significatif ces deux dernières années? Je rappelle quand même que son année MVP, c'est 36 touchdowns pour 6 interceptions. L'année dernière, c'est 17 touchdowns pour 7 interceptions. L'année d'avant, c'est 16 touchdowns aussi. C'est à chaque fois 12 matchs joués. Il n'a toujours pas fini une saison complète en tant que titulaire, puisque son année rookie, il joue tous les matchs, mais il n'est pas titulaire sur les premiers. Est-ce que au final, la cote quand même de Lamar Jackson n'a pas assez nettement baissé en 2 ans?
C'est sûr que sur les 2 premières années, c'était parti pour être quelque chose d'assuré du côté des Ravens.
Ouais, de fait, elle a baissé. Enfin, ça me semble assez manifeste. Alors, même si on peut avoir une surprise là avec les propositions, hein, on va peut-être être étonné de ce qui ressort, mais elle semble avoir baissé. Sinon, Baltimore, je pense, se serait mis en position de leur signer sans trop se poser de questions. Après, pourquoi elle baisse? Chacun veut y voir ce qu'il veut, où il veut. Mais oui, enfin, moi, ça me semble évident qu'elle a baissé, ouais.
Est-ce que si je suis cynique, je dis que les dirigeants de Baltimore, ils se disent peut-être, on a peur qu'il nous fasse une Cam Newton. Il était un peu chaud en début de carrière, il a une année de coup de chaud où il est MVP, et puis derrière, il a un style de jeu qui est pas tenable. Je me fais l'avocat du diable, hein, mais il y a les blessures, il y a un style de jeu qui est pas si efficace que ça, s'il est pas très très bien entouré, s'il a pas des très bons receveurs. Et en fait, pour nous, ça vaut pas le coup de se coincer 5 ans avec lui.
Ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment sa cote sur les autres équipes, parce que encore une fois, il y a eu ces informations-là. Ce qu'on sait, c'est que la cote du côté des Ravens, elle a baissé. Pourquoi ? Il y a toutes ces raisons-là. Ce sont eux qui sont le plus près de lui au quotidien depuis 4 ans. Ils ont certainement des raisons. C'est vrai qu'il a été très bon. Il a été un petit peu moins ces deux dernières saisons encore qu'eux. Il a un peu évolué, mais finalement revenu un peu vraiment sur de la course pure. C'est vrai que c'est difficile à juger. Et je pense qu'en effet, pour eux, ça a baissé un petit peu. Ils considèrent aussi, comme tu l'as dit, que c'est risqué. Ils ont, dans cette période-là, gagné qu'un match de play-off. Donc aussi en se disant peut-être qu'ils ont confiance au coach, ils ont confiance à ce qu'il y a autour et que le quarterback est très bon mais peut-être pas assez pour aller au-dessus, mais en même temps quoi prendre derrière, c'est vrai que toute une question. En tout cas, ça donne plus d'indications sur ce que pensent les Ravens de Lamar Jackson avant de voir ce que pense la ligue de Lamar Jackson.
Petit pronostic, allez, jouons à Madame Irma, à la boule de cristal sur cette drôle de situation. Comment ça se finit tout ça?
Moi, je parie toujours et j'ai souvent tort sur des non-événements et un quarterback qui reste dans sa franchise. Je crois toujours pas que Rodgers va partir, mais même si on en prend le chemin, par exemple. Mais
Et on me fait signe que... Non.
Breaking news. Non, je dirais qu'il reste à Baltimore et sous le tag, une année de tag. Comme ça, on a la même chose l'année prochaine.
Donc, même pas d'offre.
Ah oui, s'il y a une offre, c'est matché, en effet. Je sais pas.
Cette question, elle est pas évidente parce que je me demande aussi, est-ce que Baltimore ne peut pas matcher ou pas suivant l'offre? Je m'explique, et suivant qui fait l'offre. Je m'explique dans le sens, je sais pas, imaginons un truc complètement what the fuck, mais genre les 49ers ils disent bon, Trey Lance c'est nul, Brock Purdy c'est nul, on tente Lamar Jackson. Totalement,
c'est pas tant what the fuck que ça,
mais
hein,
tu me fais rêver.
Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que du coup, Baltimore décide de pas forcément matcher, tu récupères un choix de fin de premier tour, tu peux pas aller chercher un quarterback remplaçant, machin. À l'inverse, les Texans ils arrivent. Et les Texans te disent, ok, nous on veut Lamar Jackson, et du coup vous récupérez, et Baltimore peut récupérer directement un deuxième choix de draft pour aller chercher le remplaçant. Tu vois, est-ce que t'es pas plus incliné, enfin, t'es pas plus en position de ne pas matcher parce que tu dis, ok, j'ai le deuxième choix de la draft et je peux aller prendre un nouveau quarterback, qu'un choix très loin dans la draft où tu sais qu'en fait t'as pas de remplaçant l'an prochain, quoi. Est-ce que ça peut pas aussi les inciter, tu vois, est-ce que ça peut pas jouer?
Je pense que ça va dépendre clairement de qui. Si c'est un concurrent direct NFC Nord, par exemple, en AFC Nord, pardon, j'ai pas d'exemple en tête et je pense pas. Mais si c'est les Steelers, je pense pas. Hein, mais en effet, si c'est les Steelers, je pense que ça va très mal passer du côté de la franchise de lâcher le quarterback à l'ennemi. Je pense que ça va vraiment jouer. On a pris des exemples caricaturaux, mais je pense que c'est dans l'équation. Ouais.
Je suis en train. Non mais parce qu'en fait là vous m'avez mis un énorme doute.
Est-ce que le premier tour de cette année.
C'était pour savoir si c'était des tours de cette année.
Ouais.
Si c'est bien le cas. Ouais. C'est le cas. Par contre, si c'est après la draft, ça sera des tours de l'année d'après. Mais il faut que l'équipe en question ait des premiers tours en 2023 et 2024 en plus.
Oui, donc ça enlève pas, genre Miami par exemple, ou qui était à un moment ressorté.
C'est tout à fait possible. Il faut se lancer quasiment dans les maths et tout ça, et dans l'étude de près de la draft. Pour Lucas, il bouge pas. Pour toi, Raphaël?
Il bouge pas, moi j'ai toujours dit qu'il bougeait pas, donc je crois qu'il bouge pas.
Alors je vais faire le fifou.
On veut savoir où alors.
Ouais.
Je vais faire le fifou et je vais vous donner le scénario incroyable qui va se dérouler évidemment. Il va recevoir une offre de Tampa. Et l'année prochaine, il lancera le ballon à Mike Evans et Chris Godwin, il aura enfin des receveurs.
On lui souhaite.
Ça va être incroyable. Parce que Baltimore ne va pas matcher. Et en plus, Tom Brady va sortir de sa retraite et il sera dans l'échange, tu vois, et ils vont l'envoyer. Non, ça marche pas.
À Baltimore. Bon courage.
Je suis pas sûr que Baltimore il y aille, même s'il doit avoir beaucoup de respect pour John Harbaugh. Mais non, mais tu sais quoi, je me suis ambiancé tout seul sur Tampa.
Pourquoi pas.
Après, en vrai, Raphaël, il m'a grave chauffé le duo McCaffrey-Lamar Jackson.
Catch-a-man.
Il y a deux, trois autres joueurs en plus.
Ah ouais, avec Deebo Samuel et tout. Je pense que Kyle Shanahan.
Il a bien les tight ends, Lamar Jackson, avec George Kittle, ça peut être pas mal.
Ah bah, je pense que clairement, ils ont plus besoin de receveurs. Hein, là. T'as McCaffrey, Kittle et Lamar sur le terrain. Je pense qu'ils ne courent plus jamais, là. Ils ne courent plus jamais, Kyle Shanahan. Ce serait magnifique. Bon, en tout cas, voilà pour le cas Lamar, évidemment. Le gros dossier, vous voyez, j'aurais dû le mettre en ouverture de l'émission, là je regrette, je vais le mettre en titre, je vais le mettre en titre et en visuel quand même pour bien vendre l'émission. Les joueurs tagués qui restent, messieurs, quand même, on va évoquer, il y a trois coureurs, 10,3 millions de dollars garantis pour Saquon Barkley, Tony Pollard et George Jacobs. Est-ce que ça a du sens de donner 10 millions de dollars à un coureur quand aucune équipe n'a eu besoin d'un coureur dominant pour gagner le titre ces 15 dernières années? Je vais pas y arriver. Elle était trop longue, cette question.
Alors, petit comme ça, 10 millions de dollars, c'est énorme. Maintenant, quand on ramène au salary cap que tu as évoqué tout à l'heure, 10 millions de dollars pour ton titulaire, peu importe le poste, s'il y avait que 10 millions de dollars partout, il serait bien. Non, je pense que certes, le poste de running back est un peu sous-coté, en tout cas, est moins évalué, pas sous-coté, mais moins évalué depuis quelques années, mais 10 millions de dollars, je pense que c'est pour un joueur qui va jouer un an, c'est une bonne chose. Je pense que le tag pour le running back, c'est parfait du point de vue des franchises.
Raphaël, est-ce que c'est le move cynique ultime en fait pour les running back? C'est-à-dire que c'est une bonne manière de gérer ton running back, c'est contrat rookie, activer la cinquième option, un tag et hop, sa carrière est finie, t'en draft un nouveau.
Ouais, ça peut y ressembler très honnêtement. Je rejoins l'avis de Lucas, la moyenne des tags pour un running back, c'est autour de 10 millions, c'est le deuxième franchise tag, la deuxième moyenne la plus faible, il y a juste les kickers qui sont moins payés sur le franchise tag que les running backs. Sur un salary cap à 240 millions, 10 millions, pour avoir un bon running back sur une année, ça me semble pas un pari incohérent. Alors, tu vois, pour le coup, ça me semble encore moins incohérent, par exemple, quand t'es Dallas et que tu veux faire quelque chose en playoff et que t'as besoin de garder des très bons joueurs. Ouais. Je te dirais, une équipe en reconstruction, je vois pas trop l'intérêt de garder un running back à 10 millions très bon. Mais pour une équipe qui veut jouer quelque chose, qui est persuadée d'avoir les capacités de jouer quelque chose, se garder une arme numéro 1 à 10 millions pour une saison et se donner le temps. Et même, j'ai envie de te dire, l'année suivante, tu y remets, ça te fait 13 millions peut-être, 14. Bon, bah, moi, ça me...
Donc, si je suis ton raisonnement, logique, Tony Pollard, parce qu'il te faut de la profondeur. Ouais. Logique, Saquon Barkley, parce que bon, c'est la pierre angulaire quand même de ton attaque. Pas trop logique, Josh Jacobs à Las Vegas.
Je suis moins convaincu par Jacobs maintenant. Je comprends aussi Las Vegas qui a tellement de trous en défense qu'ils se disent bah au moins je bloque le running back et à la draft, j'ai pas besoin d'aller chercher un coureur, tu vois. En vrai, pourquoi pas.
On passe à Evan Engram, ancien Giants, arrivé l'an dernier. 73 réceptions, 766 yards, 4 touchdowns. Lucas, c'est simple, ils ne pouvaient pas se priver d'un mec qui marche aussi bien avec Trevor Lawrence et ils peuvent se le permettre.
Oui, ouais, clairement, ils étaient dans une situation parfaite pour avoir fait notamment la War Room, l'intersaison des Jaguars. C'est vrai que voilà, c'était important pour eux de garder un joueur qui a explosé, qui dans cet environnement-là a été très bon. Et c'est vrai que c'était bien de le garder. Trevor Lawrence en a besoin en plus. Je sais pas ce que t'en penses, Raph, notamment, mais c'est vrai que Evan Engram, il a fait du bien et il a été notamment un point important de la progression de Trevor Lawrence.
Ouais, 100% d'accord. Ça a même été une des bonnes surprises, hein, je trouve, de la free agency de manière générale dans la ligue. Evan Engram, il avait été drafté très haut par New York. Il s'était un peu paumé à New York, beaucoup de drops. Et là, cette année, il a été vraiment assez fiable là-dessus. Et je trouve que le franchise tag, ça te permet de le tester une deuxième année aussi pour Jacksonville. Est-ce que c'était une belle année un peu surprise et voilà, ou est-ce que vraiment on tient nos tight end numéro 1 et on construit quelque chose d'encore plus long terme avec lui pour la suite? Je trouve ça intelligent, le franchise tag. Et comme tu l'as dit, Alain, en plus, ils peuvent se le permettre. Ils avaient de la marge pour se le permettre. Ils sont pas dans une situation ric-rac. Bon, bah, tu gardes un bon élément et voilà.
Rappelle-moi le franchise tag pour un tight end, c'est combien? Tu
12, 13, je sais pas si tu l'as évoqué,
mais c'est particulier que ce soit quand même. Alors je sais que l'amour qu'on porte tous au running back notamment, mais c'est quand même particulier qu'un tight end coûte plus cher qu'un running back.
Ouais, mais c'est les très hauts salaires de Kittle et Kels font clairement péter la moyenne, parce que de mémoire c'est basé sur les 5 ou 10 meilleurs salaires.
Sur les moyennes, ouais.
Sur une moyenne des 5-10 meilleurs salaires, donc du coup ça fait complètement exploser...
Ça fait 11,3.
Ah, ça va. Je pensais que l'écart était plus important.
Honnêtement, vu l'importance que prennent certains, ça peut justifier. Ouais. Engram, un peu, moi je trouve un peu comme Geno Smith dans une autre mesure, parce que c'est pas le même poste, mais cette histoire un peu de mec qu'on n'attendait plus, qui renaît un peu dans une nouvelle équipe. Donc, comme tu disais, Raphaël, ça fait une deuxième année de test dans le pire des cas. Il avait signé pour 1 an et 9 millions en plus l'an dernier, donc ça fait pas une énorme inflation. Il prend 2 millions de plus. Ouais. Bon, c'est pas si énorme que ça. On termine avec le chouchou de Raphaël, hein, au niveau du franchise tag, c'est Daron Payne, que Raphaël voulait absolument mettre dans les listes de free agents dont on va parler. 11,5 sacs, qui sort de la meilleure saison de sa carrière. C'est plus que de sacs que sur les 3 saisons précédentes cumulées. Donc je sens que Raphaël a été enjaillé par cette poussée de motivation.
Ouais, je suis toujours un peu... comment dire ? Pas sceptique, mais j'ai toujours un peu peur de ce genre de joueurs qui explosent, font enfin le taf la dernière année de contrat. En plus, il est quand même sur une ligne défensive où il y a beaucoup d'autres, où il y a du monde quand même globalement autour de lui, et donc à quel point il bénéficie pas aussi un peu de l'aide. Ouais, et alors ça n'a rien à voir, parce que Albert Ainsworth venait des Titans quand il arrive à Washington et qu'il n'a plus rien foutu. Mais je sais pas.
Ce nom.
Je trouve qu'il y a une vibe Albert Ainsworth avec Daron Payne. Je suis pas serein. Moi, je serais pas serein à titre personnel, mais bon.
Tellement de souvenirs quand t'évoques ce nom. Alors, ça parle plus aux plus jeunes,
Big Albert
Ainsworth.
Ouais, sacré numéro.
Qui avait un potentiel incroyable, qui marchait un petit peu sur la tête de ses adversaires. Hein. C'était un peu son petit travers, son péché mignon. Mais oui, qui avait fait vraiment ce truc-là à Washington aussi, hein, de s'endormir après un petit peu avoir reçu un gros contrat.
Après, il y a les contre-exemples. Oui. Non, mais il y a les contre-exemples aussi. Hassan Reddick a fait une très belle dernière saison du côté d'Arizona. Il a été bon aux Panthers, c'est bon. Et puis Trey Hendrickson aussi, du côté de New Orleans qui avait été très bon et qui continue d'être bon aux Bengals. Donc c'est vrai que c'est un risque à prendre et puis l'avenir nous dira, mais on pourra oui, c'est vrai que on pourra dire pourra dire que c'était une fumisterie peut-être.
C'est non mais je vais être honnête hein, c'est totalement un délit de sale gueule, je sais pas parce qu'il a pas une sale gueule, mais tu vois c'est absolument enfin oui. Moi c'est le sentiment qui me donne d'être un joueur un peu fainéant et mais je peux largement me tromper sur son cas à lui hein.
On verra bien, encore une fois, là on est dans la boule de cristal, mais en tout cas, il a été tagué, donc il restera au moins une année de plus du côté de Washington. On termine un petit peu ce tour de l'actualité avec une rumeur, une question, on va appeler ça comme ça, j'en ai que trois, hein, messieurs, on va pas y passer 10 ans. On l'a un peu évoqué, les Jets discutent avec Aaron Rodgers, on n'en parlera probablement pas dans cette émission parce que ce sera pas fait, il y aura une émission spéciale si ça se fait. Est-ce que pour vous, c'est comme si c'était fait?
Non.
Non, Lucas, il croit pas.
Ah, je sais pas si ça va se faire ou pas. Ça pourrait se faire, mais c'est pas comme si c'était fait. Aaron Rodgers, c'est tellement peut partir tellement
oui,
dans tous
vrai,
les sens
je
miserais pas mon PEL là-dessus. Maintenant, je serais pas surpris que dans 2 jours on apprenne qu'il faille refaire un podcast parce que Aaron Rodgers vient de signer aux Jets.
Raphaël, pour toi, c'est bon, là, on y va. Ils l'ont autorisé à parler aux Jets, ils discutent avec les Jets, pour la compensation.
Ouais, moi, je pense que c'est fait. Mais j'ai vraiment l'impression que le divorce est acté avec Green Bay. Alors, est-ce que c'est fait avec les Jets? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est acté avec Green Bay, que ça sera pas Green Bay. Donc, à partir de là, quelle autre solution? Les Jets qui l'ont dragué ou retraite? J'en sais rien, mais pour moi, j'ai le sentiment que ça ne sera pas le quarterback titulaire de Green Bay l'an prochain. Ça, par contre,
pour continuer sur ce que tu dis, j'ai l'impression que le divorce il est acté dans les deux sens.
Oui.
J'ai l'impression qu'ils ont envie qu'il se casse. Surtout.
Aussi. Oui, oui, non, mais effectivement, quand je dis il est acté, là, c'est consentement mutuel et sans aucun doute. Donc, ouais, moi, j'aurais entendu. Et là, New York s'est déplacé, tout le monde s'est déplacé en jet pour aller le voir en Californie. Je trouve que ça commence à sentir pas trop mauvais. Et je trouve ça assez incroyable qu'ils soient en train de prendre le même chemin que Brett Favre.
Et au même âge, à la même année près.
C'est absolument fascinant quand même. Quand on connaît la relation entre les deux, c'est...
Il y a un film hein, là-dessus à faire. En tout cas, la presse new-yorkaise va se régaler avec Aaron Rodgers. Hein. Parce que si on a pu trouver que j'ai pu être dur sur le site avec Aaron Rodgers parce qu'on me l'a fait remarquer ces derniers temps, attendez de voir ce qu'il va prendre dans le Daily News et dans Newsday et dans machin, ça va être un carnage. Bon, en tout cas, on verra bien, mais moi je suis entre les deux, c'est-à-dire qu'avec un joueur rationnel, je dirais que c'est fait, vu tous les indices, mais je suis comme Lucas, j'attends tant que je le verrai pas avec le maillot sur le dos... J'ai du mal à... Il est capable de prendre sa retraite sur le chemin de la conférence de presse, quoi. Donc, on verra bien. Les Titans seraient à l'écoute des offres pour Derrick Henry. Quelle équipe devrait faire une offre?
Buffalo.
Ouais. Oui, forcément. Oui.
Ah, c'est
mais là, par contre, c'est rival de conférence.
Bon, alors, je veux pas m'avancer, mais je pense que les Titans ne sont plus à ça près. Je pense
oui,
que là
aussi.
Quand ils ont ouvert les portes du centre d'entraînement en disant allez messieurs tout le monde s'en va et puis les gros salaires en premier s'il vous plaît, je pense que surtout que je suis pas sûr que Derrick Henry à l'inverse de Lamar Jackson ait énormément d'équipes qui viendraient s'intéresser parce que ça va coûter un petit billet, je pense qu'ils peuvent pas se permettre de faire les difficiles, mais peut-être que je m'avance un peu trop.
Je vais radoter, mais moi je dirais bien Buccaneers ou 49ers.
Avec Lamar Jackson.
Ouais, 49ers, non, quand même, mais.
si, encore.
Buccaneers, pourquoi pas, c'est dur à.
Allez, tu fais le doublé Jackson-Henry sur l'intersaison, c'est all-time, moi j'achète le maillot.
Il y a écrit Jackson.
Ah ouais, je suis leur supporter numéro 1, ce sera le numéro 822. Tu vois ah ouais, ce serait incroyable.
Cincinnati,
non, en termes de puissance...
Cincinnati, Mixon est en fin de contrat, non? Si je dis pas
Oui. Et puis Mixon, il y a sa maison qui était une scène de crime.
Ouais,
hein,
il est en fin de liberté peut-être.
il est peut-être en fin de liberté.
Aïe, aïe.
Mince. Oui, non mais du coup Cincinnati, ce serait carrément une bonne idée.
Ça serait
sexy.
En tout cas, malheureusement, moi j'aimerais bien que ce soit une équipe prétendante au titre qu'aille le chercher, mais j'ai peur que ce soit une équipe en construction qu'aille le chercher, en mode je vais aider mon jeune quarterback.
Ah, j'espère pas pour lui.
Voilà, c'est un peu ma peur, mais bon.
Après, ouais, c'est peut-être à lui aussi de savoir s'il n'est pas à temps pour lui de venir aider une équipe qui manque peut-être juste ça. Et... Parce que c'est certains trades, mais je suppose qu'un joueur comme ça a plus ou moins son mot à dire quand même
oui,
entre
quand même.
Deux équipes. Je balance ça comme ça, mais les Chiefs, ça serait sexy.
Oui. Oh là là. Mmh. Ouais, là, oh. C'est...
Ah, ce serait beau. Ou alors un one-two punch avec Austin Eckler pour avoir une alternance, tu vois, pour lui donner moins de ballons,
ouais,
pour avoir un peu plus de carrière.
En sortie de backfield. Ouais, non, c'est sûr
ça
que c'est.
Mérite,
ouais, c'est.
Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien. Bon, il y a des trucs à faire. Après, c'est pas sûr qu'il bouge, hein. C'est que de la rumeur. Et celle-là, juste pour rigoler, Marcus Mariota et Carson Wentz ont tous les deux été coupés depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Est-ce qu'ils auront une chance d'être titulaires ailleurs avec le carousel des quarterbacks? Il y en a bien qui va retomber quelque part.
Alors, pour moi, titulaire, non. Maintenant, un match titulaire dans la saison prochaine, c'est possible.
Ouais.
Ah, ça aurait dû être ça ma question. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va débuter un match?
Combien? Non, mais qui va faire plus de matchs titulaires jusqu'à la fin de sa carrière? Je pense qu'ils en ont pas fini.
Ouais, c'est fou, hein. Mais vous avez vu tous les quarterbacks qu'on vient de citer en NFC tout à l'heure, ils vont se foutre dans une de ces équipes-là, il y aura un blessé, ils vont jouer.
Non, mais pas, ça me paraît pas impossible qu'un Mariota, tu vois, moi je que les Chiefs sont plus de quarterback remplaçant, Chad Henne est parti à la retraite. Kansas City qui se prend un petit Mariota sur le banc, le dernier match de saison quand Mahomes repose sa cheville.
Messieurs, en parlant de ces joueurs-là, Cooper Rush, le quarterback remplaçant de Dallas, qui est libre. Et je me demandais, je me posais la question, et je me dis, est-ce que c'est pas meilleur que ces joueurs-là et est-ce que c'est pas un joueur qui peut finir titulaire dans une équipe qui est en grande difficulté, par exemple les Panthers qui n'arrivent pas, ou après il faut voir sur la draft.
Mais je sais pas quand même.
Mais quand on parle de...
Mais par contre, moi, effectivement, c'est peut-être pas moins pire que Mariota et Vance, et en plus moins de prétention salariale à mon avis, parce qu'un statut moins élevé à la base.
Ah oui, clairement.
Après, moi je me suis ambiancé sur Lamar Jackson aux Buccaneers, mais en vrai pour l'instant ils ont Kyle Trask, hein, donc ça peut être là aussi qu'il tombe un Mariota, un Vance, un Cooper Rush dans une lutte pour un poste. Hein.
Ça serait marrant Mariota, alors que Tampa avait préféré Jameis Winston. Et,
ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, on n'est pas à l'abri d'un retour de Jameis Winston à Tampa, hein, sinon.
Ah, ça on achète aussi.
Oh, il se passe des trucs dans cette émission. On va terminer avec quelques justement mots free agency. Petit pronostic rapidement free agency.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
On va terminer donc avec un peu de free agency plutôt que de vous proposer une longue liste. Vous avez déjà pas mal de listes sur le site. On va, nous, vous proposer des trios de joueurs. Trois joueurs qu'on voudrait absolument signer, quel que soit le prix. Hein. Vous avez le portefeuille de Stan Kroenke, je sais pas c'est lequel le plus riche là-dedans, bref. Donc, vous avez le portefeuille, trois joueurs qu'on veut absolument signer, trois joueurs à éviter et trois pépites à aller chercher. Je vous laisse commencer, messieurs. Lucas, quel joueur tu veux absolument signer si tu as le budget?
Jesse Bates, des Bengals, qui sort de deux très bonnes saisons, qui jouait sous le franchise tag, je crois, l'année dernière, en tout cas cette saison, et qui est une partie prenante et vraiment importante de la défense, qui a été bonne, notamment lors des playoffs, des deux sessions de playoffs l'année dernière, la saison, en tout cas il y a deux saisons si on considère que la saison prochaine a déjà commencé. Je pense que c'est un joueur qui peut être très important dans un système défensif et qui peut aider pas mal d'équipes, notamment par exemple Buffalo qui va perdre Jordan Poyer potentiellement, qui a déjà annoncé qu'il voulait partir. C'est un rival certes, mais si j'ai le budget, je le signe.
très fort joueur en effet, Jesse Bates. Raphaël, qui tu signes absolument? Après, tu as le droit de dire d'ailleurs, hein, on peut s'interpeller. Si tu trouves que Jesse Bates est une pipe et que tu le signes.
Non, effectivement, je suis plutôt aussi convaincu par le joueur. Bon, Lucas l'a bien décrit, hein, je pense que ça fait vraiment partie des top joueurs à les signer cette intersaison. Il renforcerait pas mal d'équipes. Donc, à la petite modération près, que j'ai le sentiment que des fois les free agent cornerback safety sont parfois des choix un peu risqués par rapport au schéma défensif, tout ça. C'est juste peut-être la petite.
Surtout lui, oui, qui joue dans un schéma avec voilà, un safety, et il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec deux safety.
C'est ça, ça serait peut-être le petit bémol, mais sur le talent, pour moi, oui, ça fait partie des très gros. De mon côté, moi, je serais allé vers Javon Hargreaves des Eagles, defensive tackle. Il était arrivé il y a 2 ans via la free agency du côté de Philadelphie, un peu en sous-marin, j'ai envie de dire. Joueur avec peu de cotes, pas très cher, mais déjà solide. Et je trouve qu'il a encore pris une dimension supérieure du côté de Philadelphie. Cette saison, c'est 11 sacs. Voilà, pour moi, ça fait partie de ce genre de joueur de ligne défensive top niveau. Tu le mets au centre de ta ligne. Il compte la course, il est bon. Il apporte la pression au centre de la ligne. On sait que c'est vraiment important au centre de la ligne, la pression que tu peux mettre sur un quarterback. Ouais, voilà, moi, si j'ai l'argent, c'est vraiment un transfert sur lequel j'hésite pas et je le signe. Et je suis à peu près certain d'avoir un très bon titulaire, à mon sens.
C'est vrai que c'est un ancien joueur des Steelers. Mmh. Il avait été drafté au 3e tour en 2016. Il avait passé 3 ans là-bas. De mon côté, je vais rester sur la ligne, mais je vais aller en attaque. Bon, planche à billets, c'est lineman offensif, hein, Orlando Brown, 27 ans. Je ne suis pas dans la grosse surprise, mais je pense qu'aujourd'hui, si on exclut donc tout ce qui est parti en quarterback, en joueur tagué, etc., on ne doit pas être loin d'être sur un des top joueurs offensifs disponibles. Ce n'est pas forcément le meilleur pur left tackle de la ligue, mais c'est un tackle. Très solide, expérience d'une équipe qui jouait le titre, champion. Donc, bah, c'est le genre de joueur pour lesquels tu vas parfois surpayer un peu.
Oui, il est polyvalent, il peut jouer des deux côtés, tu l'as dit. Et puis, il a été très important quand il est arrivé pour cette équipe des Chiefs. Donc, on le voit, il est capable de jouer dans des équipes différentes, de s'adapter.
C'est
effet, moi, je mettrais un peu d'argent si je l'avais, en effet.
Ouais, clairement. Je vous rejoins. Talent, et je trouve vrai polyvalent. Il était bon à Baltimore dans un schéma très particulier de course. Il est bon à Kansas City dans un schéma beaucoup plus aérien.
Et il va falloir faire ce qu'il faut pour le garder, d'ailleurs, du côté de Kansas City. Hein. Je dis je le signerai, mais si t'as Patrick Mahomes, vaut mieux garder ce genre de joueur-là. Qui on évite maintenant, Raphaël?
Pas évident, parce qu'en fait, j'ai trouvé, autant je trouve qu'il n'y a pas d'énormes talents cette année en free agent, mais je trouve pas qu'il y ait de paris vraiment douteux, de type que je fuirais à tout prix. Bon, il fallait choisir, du coup, je suis quand même parti sur Marcus Davenport. Pareil, ligne défensive côté Saints. Voilà, c'est un jeune joueur qui a eu... Alors, l'an dernier, c'était un peu compliqué. Il y a 2 ans, il fait une belle saison autour de 10 sacs. Mais je lui trouve quand même un défaut et un manque une certaine irrégularité. Et ce qui me gêne peut-être encore plus, une irrégularité au sein même d'un match. Je le trouve vraiment en difficulté pour finir bien les matchs, pour finir même ses actions de manière générale. Donc voilà, je serais un peu inquiet sur la capacité à le faire jouer beaucoup et donc lui donner un beau contrat. Donc moi, je l'éviterai. Mais bon, très sincèrement, c'était plus un choix par défaut.
Après, il faut dire que chez les Davenport, c'est toujours Lindsay qui restera la meilleure. Référence tennis old school pour les anciens. Voilà, c'est cadeau. Lucas, Marcus Davenport, t'évites aussi?
Marcus Davenport, j'évite aussi. En même temps, j'évite aussi sur le gros contrat, comme dit Raph, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait un marché pour un gros contrat pour lui. Maintenant, je ne serais pas surpris qu'il arrive dans un environnement différent, un peu comme j'en parlais, Trey Hendrickson, qui avait été bon du côté des Saints sans être exceptionnel, et qui est très bon du côté de Cincinnati. C'est vrai que j'évite, oui, en effet, mais je le signe à un prix très raisonnable.
Il faut être raisonnable. Oui, à éviter, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, c'est aussi à éviter de surpayer.
C'est ça, ouais, c'est surtout ça.
Qui tu ne surpayerais pas, Lucas?
Je ne surpayerais pas Marcus Peters. Et je le dis parce que c'est un nom flashy un peu. C'est un cornerback qui a été très bon, qui a fait partie des meilleurs cornerbacks de la ligue, voire même qui à un moment peut-être l'a été. Et du coup, je pense que c'est des joueurs et c'est des noms comme ça qui ont peut-être qui poussent les équipes à surpayer. C'est encore un bon joueur. Mais il est encore, il devient de plus en plus fragile. On l'a vu du côté des Ravens, il se blesse de plus en plus. C'est un peu moins constant dans son jeu. Comme le disait Raph, les cornerbacks, c'est toujours aussi un peu la loterie, plus ou moins, compte tenu du système. Même s'il a joué lui dans différentes franchises et différents systèmes, il a réussi à s'adapter. Mais bon, l'âge commence à arriver un petit peu. Donc c'est toujours un point d'interrogation pour les cornerbacks comme ça. Donc je le signerai, mais à un prix très raisonnable en effet. Et surtout, je lui donnerai pas un gros contrat.
Je vais rester sur les noms flashy pour celui que je vais éviter. C'est pareil, hein, il faut éviter le déraisonnable. C'est Odell Beckham, parce qu'en fait il est free agent hein, officiellement. Mm. Je me disais que ça mange pas de pain de le... Ça mange pas de pain de le mentionner, ça fait du clic, hein, on va pas se mentir. Non mais il a pas joué la saison dernière, il a 30 ans, il a déjà sa bague, il a l'air de vouloir un gros chèque. C'est un joueur incroyable, ça a été un joueur incroyable. Il a bien aidé les Rams, hein, mine de rien, avant que son genou parte en fumée au Super Bowl. Mais je trouve qu'il y a quand même énormément de drapeaux rouges sur lui, pour prendre une expression américaine francisée. En tout cas, pas cher, quoi.
Il y a écrit Dallas en tout cas hein, sur Odell Beckham Jr. Ouais. Tout ce que tu as dit, tout ce qui se passe, ça, c'est les Cowboys à plein nez.
Oui, c'est bah tout ce qui se balade avec plus de drapeaux rouges que la place Tiananmen, ils aiment bien en général. Hein, c'est leur truc, les Cowboys.
Voilà, cette référence géopolitique et tout, magnifique, magnifique.
T'as vu un petit peu. J'hésitais entre plus de drapeaux rouges que sur la place Tiananmen ou plus de drapeaux rouges que sur le Kremlin en 83, tu vois, quelque chose comme ça.
C'était plus long en plus et tout.
Mais là, ouais, c'était un peu dur. Quoi. Allez, on passe aux pépites. On revient sur toi, Lucas.
Jacoby Myers pour moi, messieurs receveurs des Patriots. Je le dis parce que je pense que c'est pas loin d'être un receveur numéro 1, mais je pense que le système du côté de New England faisait qu'il performait pas. Mais une équipe qui cherche un receveur numéro 2 bon, voire très bon, pourrait et je pense devrait s'intéresser à Jacoby Myers. On parlait de Dallas par exemple, je prendrais bien plus volontiers un Jacoby Myers qu'un Odell Beckham Jr. Parce que ça va coûter moins cher je pense, et parce que ça peut être bon derrière CeeDee Lamb, les Chiefs par exemple qui cherchent peut-être des receveurs pour accompagner Travis Kelce qui est considéré comme le receveur numéro 1. Voilà, Jacoby Myers parmi cette classe de receveurs qui n'est pas forcément fourni, je pense que c'est la bonne affaire à faire. C'est mieux qu'un Juju Smith-Schuster par exemple pour moi, parce qu'à New England il est très bon, c'est juste qu'il n'est pas mis en valeur, et je pense que dans une autre équipe il peut l'être.
Tu te portes garant alors. Donc il nous fait un reverse New England. D'habitude il marche à New England, il marche pas ailleurs.
Oui, mais pour le coup oui, c'est vrai. Alors je sais pas si je me porte garant, mais en tout cas je pense que il est en effet vraiment, je le répète, il est pas aimé à sa juste valeur, parce que à New England ça lance peu, pas forcément très bien, mais à chaque fois qu'il le fait, il court notamment des routes superbes. Donc je pense que ça peut être une bonne opération.
Raphaël, quelle est ta pépite?
Moi je suis parti sur Lavonte David. Alors c'est pas la pépite, le petit joueur un peu inconnu sous le radar que tu vas aller débusquer pour 3 francs 6 sous, mais j'ai plus pris pépite dans le sens vraiment petit joyau que tu peux ajouter, petite cerise sur le gâteau quoi, que tu peux ajouter quand t'as un bel effectif. Parce que et je pense que tu peux quand même l'avoir à un prix raisonnable. Il va avoir 33 ans, ce qui peut rebuter certaines équipes. Mais pour moi, ça reste un des tout meilleurs middle linebackers, un QI football vraiment très très au-dessus de la moyenne. Quand je vois ce que Bobby Wagner a apporté par exemple chez les Rams l'an dernier, alors que beaucoup le pensaient un peu sur la pente, voilà, je pense que David peut vraiment apporter la même chose à une équipe bien calibrée pour aller jouer le titre.
Ça, les Eagles, pour moi, par exemple. Les Eagles, par exemple.
Ouais, pour moi, c'est un titulaire. Jour 1, enfin sans aucun doute, il apporte QI football, il apporte de l'expérience. Franchement, sur un contrat d'un an ou deux ans, avec une porte de sortie après la première année autour de 10 millions, moi je le signe, mais alors sans hésiter quoi.
Oui, puis les middle linebackers, ça a plus énorme, ça a plus la cote que ça avait en plus en termes de
beaucoup moins, enfin.
Très bien. J'ai hésité. Moi, j'avais Donovan Smith que j'aimais bien parce qu'il vient d'être coupé par les Buccaneers, et dans le rayon expérience à ajouter sur la ligne, ça fait jamais de mal si c'est pas trop cher. J'aime bien DJ Chark, mais je crois que c'est un de mes crushs un peu inexplicable. Je sais pas pourquoi. Quand il est en forme, je le trouve toujours très bon. Le problème, c'est qu'il n'est pas Enfin voilà, il est très blessé, mais il a 26 ans. Finalement, je suis allé sur un linebacker, c'est Samson Ebukam, qui s'est bien amusé à San Francisco, qui était déjà solide avec les Rams, qui a 5 sacs l'an dernier. Je le prends vraiment, pour le coup là, vraiment en pépite, au sens pas cher, qui sera pas un leader de ta défense, mais qui va apporter dans ta rotation. Ce sera peut-être même pas un titulaire incroyable avec tout ça, mais c'est un joueur que j'aimerais bien ajouter dans mon équipe si j'avais une défense qui est déjà un peu étoffée, pour rajouter un peu de profondeur pour pas cher. Voilà, j'aime bien, je l'ai toujours trouvé, alors il faut qu'il ait, voilà, à San Francisco il avait Nick Bosa, au Rams il avait Aaron Donald, hein. Je vous dis pas que c'est lui qui va faire tout le boulot, mais je trouve qu'il a des moments où il peut peser sur un match, où il peut sortir une action intéressante, où il peut faire des choses, et c'est le genre de joueur que j'aime bien avoir dans mon équipe. Donc je vais mettre Samson Ebukam. Voilà, je suis allé creuser. La liste.
Bon, je vais rebondir juste sur quelque chose que tu as dit avant. On va peut-être même, enfin, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin de l'émission. Je vais peut-être finir sur ça, mais Jacoby Meyers, je prends beaucoup plus volontiers que DJ Chark.
Oui.
Bah. Ah oui, oui, oui,
oui, oui, oui, oui, oui.
Très bien. Non mais c'est bien, tu annonces le reverse.
Oui, voilà, c'est
ce
ça.
Sera
c'est
peut-être
c'est
le premier free agent.
Mets un peu d'enjeu sur quelque chose. On verra dans quelques mois.
Voilà, qui explose. Là, on est parti sur des gros paris. Hein. On va terminer cette émission là-dessus. Donc, Lamar Jackson aux Buccaneers ou avec Christian McCaffrey à San Francisco et DJ Chark, donc qui explose en quittant les Patriots, pas en y arrivant, ce qui serait déjà une belle surprise. Et tu as raison, Lucas. C'est comme ça que se termine l'épisode 596 du podcast Jeune Actu. On vous remercie de nous écouter. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Soif 99, LT 56, Fatal Michalska, Stéphane Xavier, Alexandre, Numcat, Nicolas Delmas, merci de nous soutenir sur Tipeee. Vous pouvez évidemment nous soutenir aussi en mettant des étoiles et des commentaires sur tout ce qui est plateforme d'écoute. Alors évidemment, plutôt plus d'étoiles que moins, hein, si vous voulez nous soutenir, mais après, bon, on ne vous empêche pas d'être honnête. Hein.
Mais un peu moins quand même.
Mais bon, dans l'idéal, voilà. En tout cas, ça nous aide à monter dans les classements, donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien et ça prend 2 minutes, donc si vous voulez le faire, c'est toujours apprécié.
Ils peuvent mettre 5 avec une insulte.
Alors ça risque d'être striké par les systèmes de modération automatique à mon avis d'Apple Podcast et de Spotify, mais non, à la limite, pour qu'on sache si vous avez écouté cette émission, mettez un commentaire 5 étoiles et je sais pas moi, un commentaire sur Jacoby Meyers. Mettez Jacoby Meyers dans votre commentaire.
La grosse hype, voilà. Jacoby Meyers, j'espère qu'il va faire une grosse saison.
Voilà, un truc comme ça. Donc merci à vous en tout cas. Merci Raphaël, merci Lucas. Ça faisait très plaisir de vous retrouver.
De même.
Et puis bon, on se retrouve assez vite probablement pour parler d'Aaron Rodgers. Hein. Je pense. Là, je check frénétiquement Twitter en même temps qu'on finit d'enregistrer pour savoir si on prolonge ou pas, mais là, a priori, non. On a fini. Donc pas d'Aaron Rodgers, mais on se retrouvera pour ça. On se retrouvera pour débriefer la Free Agency, évidemment, comme d'habitude. Et puis vous retrouvez tous les podcasts draft au fil de la semaine avec toute l'équipe draft qu'on salue, hein, Jean-Michel, Grégory, Victor. J'espère que j'oublie personne. Je crois qu'Antoine commence à faire de l'antenne. Nitinia fait de l'antenne aussi. Alex, etc., etc. Mehdi aussi. Enfin voilà, tout le monde. Grosse bise à eux et merci pour tous ces contenus draft. Pour nous suivre, je rappelle les réseaux sociaux, allez, TD Actu sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok, @TouchdownActu en entier sur Instagram. Si vous avez le @TDActu sur Instagram et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, hein, pour nous le filer, parce qu'on n'arrive pas à le récupérer. On vous rappelle que l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup de nous écouter. On se quitte avec le générique, évidemment. Ça faisait quelques semaines qu'on l'avait pas entendu. Très bonne journée à tous, ou soirée si vous nous écoutez le soir. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rodgers, Global, Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.